7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, qu'est-ce que la virginité ? C'est un sujet à la fois fantasmé, tabou, dépassé, en tout cas largement passionnel. Que la virginité soit une preuve de moralité, un passeport pour le mariage, ou au contraire un signe parfois de mal-être dans une société libérée sexuellement. Partout, en tout cas, la virginité est un tiroir à double fond entre la norme et la vraie vie. Alors au-delà de toutes les hypocrisies et pressions sociales, que signifie finalement vraiment être vierge aujourd'hui, de l'Amérique du Nord à l'Orient? Pourquoi la virginité demeure une question à la fois existentielle et politique? Nous allons en parler avec nos invités qui sont aussi bien sociologues, conseillères familiales, historiennes ou encore journalistes au Moyen-Orient. Autant vous dire que le témoignage, le débat est incroyablement agité sur notre fil Facebook, largement plus de 200 messages à l'heure où je vous parle. Et bien sûr, il faut maintenant vous exprimer de vive voix, les voisins et les voisines, en tout anonymat. Ne laissez pas, notamment je parle aux voisines, ne laissez pas les autres parler à votre place, notamment si votre histoire a un sens pour le débat public. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques extraits des messages qui sont postés sur le fil Facebook. C'est un sujet qui crée beaucoup d'interactions entre les voisins et les voisines. Pas mal de voisines qui témoignent de leur virginité. D'ailleurs, elles sont largement félicitées, autant par des hommes que par des femmes. Et les voisins, eux, se retrouvent plutôt dans, on va dire, l'interrogation de, par exemple, de Joanie, 25 ans, qui est à Fadangourma, à 200 km de Ouagadougou. Et il nous dit, la virginité n'est pas un mot tabou chez les jeunes au Burkina Faso. Mais je me demande si on peut encore aujourd'hui trouver une femme vierge à mon âge. Il a 25 ans et pour cause, hein, le mariage est tout de même assez précoce. Anthony à Lubumbashi, dans le sud du Congo, Kinshasa, donc dans un pays chrétien. Dans mon pays, pour les croyants, la virginité avant le mariage est très importante et elle établit la confiance entre deux conjoints. Une cérémonie est d'ailleurs organisée après le mariage pour remercier la famille de la femme si celle-ci a bien été trouvée, constatée vierge par son mari. Mais au-delà de tous ces témoignages sur le fil Facebook, au-delà d'un idéal, d'un ticket aussi pour le paradis qu'on retrouve fréquemment, il y a aussi des internautes qui s'interrogent. Sylvie, camerounaise à Montréal. Je lis les commentaires Facebook, on ne parle que des filles. Pourquoi est-ce toujours à la fille qu'on impose d'être vierge? Ou encore Barama à Dakar. Il nous dit que certaines filles ont perdu leur virginité depuis longtemps et utilisent des produits pharmaceutiques pour réparer l'hymen afin de contenter leurs parents et le futur mari. Ou encore Mohamed, 27 ans, à Bamako, au Mali. Avant, il y avait des vierges en ville comme au village. Maintenant, pour avoir une fille vierge comme femme, les hommes prennent la virginité de la jeune fille avant de lui demander sa main, c'est-à-dire vers 12-15 ans. Il me semble que ça s'appelle un viol, hein, ou alors j'ai mal compris, Mohamed. En tout cas, vous nous appelez en direct maintenant dans l'émission au 33 1 84 22 71 71. Allez, je vous redonne le numéro de téléphone. N'attendez pas la fin de l'émission parce qu'après vous êtes déçus si vous ne passez pas. 33 1 84 22 71 71. Qu'est-ce que la virginité aujourd'hui dans le monde? Vaste question. En tout cas, c'est ce qui s'appelle un casse-tête pour une reporter. Recueillir le témoignage d'une fille qui n'a jamais couché avec un garçon sans être réellement croyante ou pratiquante, c'est compliqué. Écoutez le témoignage de Marilyn. C'est une jolie fille brune, pulpeuse, pétillante, célibataire de 26 ans. Elle vit à Paris et elle a raconté pourquoi et comment elle a perdu sa virginité au micro d'Alice Milo.
Moi, j'ai perdu ma virginité, j'avais 20 ans. Trois jours plus tard, j'avais 21 ans. Comme s'il y avait une petite alerte dans mon cerveau qui me dit, bah, fais-le, c'est maintenant, sinon tu le feras jamais. T'as 20 ans. Tous tes potes l'ont fait. Tous tes potes sont en couple actuellement. Une pression à moi de me dire, ok, vas-y, fais-le, dédramatise le truc. Au moins une fois, c'est pas grave, c'est pas l'amour de ta vie. T'aimes pas le garçon, mais fais-le. Donc, voilà, je l'ai fait avec ce garçon que j'ai rencontré sur un site internet. C'était l'occasion, il y allait en douceur, tout ce que finalement Disney ou tous les films, les comédies romantiques nous font croire que c'est le prince charmant. C'est pas vrai. La princesse de Disney, elle n'existe pas, elle sera jamais là. Et je me suis dit, renonce à ça, grandis, avance. Et voilà, je l'ai fait.
Comment vous aviez fantasmé votre première fois ?
Des bougies, des fleurs, non. De l'amour surtout, de la tendresse, de la passion. Pas une chambre avec un coloc et des murs en papier, avec des draps ignobles et dans la chambre d'un garçon, c'est pas toujours propre. Moi, je pensais que c'était offrir quelque chose, que c'était important. Mais quand je l'ai fait, j'ai pas offert quoi que ce soit. Je l'ai fait parce que je me suis dit que plus tard, ça serait compliqué de justifier le fait que je ne l'ai toujours pas fait. D'essayer de faire comprendre à quelqu'un que j'attendais la bonne personne. Et en fait, de me rendre compte que cette pensée est ridicule parce que attendre l'amour de sa vie ou quoi, quand on a 20 ans, c'est mignon de dire ça. Quand on a 25 ans, est-ce que ça se justifie ? Est-ce que c'est mignon de dire « j'attends toujours l'homme de ma vie ?» Puis oui, aussi la peur de me dire que plus je vais avancer sans connaître, plus les gens vont prendre de l'expérience puisque les gens commencent de plus en plus tôt ou enchaînent énormément. Je vais me retrouver face à des gens qui ont beaucoup d'expérience et moi pas du tout. Et ça va finalement peut-être me mettre deux fois plus mal à l'aise. Donc je me suis dit, fais-le, ok, bon, tant pis, c'est juste le missionnaire, ça sera fait, au moins on connaît ça. Enfin, voilà, on connaît, et basta. En fait, je pense qu'il y avait une angoisse en moi qui était grande et que je sentais venir de peur de pas plaire, de pas être aimée, de pas être belle, de pas savoir m'y faire, surtout à 20 ans, 21 ans, c'était dur pour moi de dire le mot sexe. Enfin, c'est ça, peut-être que j'avais peur, mais... Je me suis pas sentie, après avoir perdu ma virginité, différente ou quoi, comme tout ce qu'on peut entendre, mon Dieu, j'ai changé, je suis une femme, ce genre de choses. Dans ma tête, tout ça, ça avait rien changé. Juste peut-être, j'ai commencé peut-être à me trouver un peu plus belle ou un peu plus désirable ou rien qu'en embrassant un garçon, de faire sentir qu'il a du désir. Tu dis, ah ouais, tu fais cet effet-là. Donc de prendre conscience du pouvoir qu'on peut avoir sur autrui en séduction. C'est plutôt ça que j'ai découvert après. Tu peux plaire, donc tu es belle. Donc finalement, ça m'a fait prendre confiance en moi et en mon corps.
Où que vous soyez dans le monde, en tout cas, appelez-nous si votre histoire a du sens pour faire avancer le débat. Qu'est-ce que la virginité aujourd'hui ? 33-1-84-22-71-71.
7 milliards de voisins. Nous avons maintenant une lucarne. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Yaël Amsalem Mingui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'INJEP, c'est l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire. Et quant à vous, Stéphanie de Malglève, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère conjugale et familiale et vous intervenez dans les collèges, dans les lycées, dans les centres de planification. Et vous avez cofondé le cabinet Diapason en termes de conseil conjugal et familial. Que vous évoque toutes les deux l'histoire de cette jeune fille, Yaël Amsalem Mingui?
Eh bien, je pense qu'il y a plein d'éléments dans ce qu'elle raconte. Elle dit à la fois que la première fois, il fallait y passer quelque part, de manière un peu brutale. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les récits de jeunes, malgré tout, avec quand même des grosses différences en fonction des âges. Puisque en France, puisqu'elle vit en France, hein, cette jeune fille, on sait que l'âge au premier rapport n'a pas bougé depuis 30 ans. Il se situe globalement autour de 17 ans, comme l'âge au premier baiser. C'est plutôt autour de 13 ans. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que il y a encore, à 18 ans, près d'un quart des filles et un cinquième des garçons qui n'ont toujours pas eu leur première fois. Donc, contrairement à ce qu'on aimerait bien croire dans les médias, dans la publicité, ben non, tous les jeunes n'ont pas eu leur première fois. Mais les jeunes eux-mêmes ont l'impression que tous les autres ont déjà eu leur première fois.
C'est un peu les réseaux sociaux, d'ailleurs, qui tendent à donner cette image un peu faussée de la réalité, non?
Les réseaux sociaux ont
peuvent plonger les jeunes dans une anxiété.
Oh, je pense que les réseaux sociaux ont bon dos. Je pense que tout le monde a sa part de responsabilité, à la fois les parents qui s'inquiètent dès 12 ans de la première fois qui va arriver peut-être maintenant tout de suite, parce qu'on a toujours l'impression que les générations d'aujourd'hui sont toujours pires que celles d'hier et qu'on les contrôle moins.
Mmh. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui n'aide pas les jeunes, c'est que aujourd'hui on parle beaucoup d'extimité, c'est-à-dire l'intimité du jeune qui est mise sur la place publique. Mmh. Et donc dans cette intimité qui est complètement dévoilée, finalement, quelle est la part de vérité et quelle est la part de voilà, je l'ai fait, je l'ai pas fait, pour être comme les autres. Et moi, c'est ce que j'entends beaucoup dans cette jeune fille, cette désillusion. J'entends deux choses. Moi, la désillusion de la première fois, cette première fois finalement qui était rêvée. Elle parle de Disney, etc. On peut se poser la question, mais voilà, elle l'a rêvé, et finalement, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de vivre une première fois, une belle première fois, vous voyez?
Mais cette désillusion, vous la retrouvez, vous, dans les dialogues que vous avez avec les jeunes?
Il m'est arrivé de, bien sûr, il m'est arrivé de, désillusion, mais surtout déception de la suite. C'est-à-dire, je lui ai donné ma virginité, ou j'ai perdu ma virginité, comme elle dit, comme dit cette jeune, ou j'ai fait ma première fois, et puis il est parti, il a pas compris. Au fond, pour moi, c'était important, mais pas pour lui.
Ça veut dire que pour l'imaginaire des jeunes filles dans des sociétés dites libérées sexuellement en Europe, la virginité est quelque chose qui s'offre.
La virginité, de toute façon, des filles doit s'offrir. La virginité des garçons doit se passer. De toute façon, il y a des enjeux. Et quand on interroge les filles comme les garçons, ils sont tous capables, quel que soit leur âge, de parler de leur première fois. Les adultes aussi. Et c'est bien que cette première fois inaugure quelque chose de particulier dans l'entrée dans la sexualité. Ce qui ne veut pas dire pour autant, et c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il est important d'insister, que ce soit en France ou dans les autres pays, toutes les enquêtes montrent bien ça. Et c'est ce qu'on voit dans l'Atlas des femmes, l'Atlas mondial des femmes, c'est bien les enjeux que c'est pas parce qu'on n'a pas eu une première fois avec pénétration vaginale, désolé c'est le matin, qu'il n'y a pas pour autant...
Ce sont des sujets qui sont régulièrement abordés sur RFI, notamment grâce à Priorité Santé.
Qu'il n'y a pas pour autant de découverte de la sexualité en général, qu'il n'y a pas de caresses, d'attouchements et de plein d'autres manières d'entrer dans la sexualité. Et finalement, la virginité, la perte de la virginité, ça va être un moment fatidique qu'on illustre beaucoup à travers la pénétration vaginale, mais qui est finalement le fruit d'une rencontre de caresses, d'attouchements qui sont progressifs avec le même partenaire ou pas.
Est-ce que les familles demeurent très protectionnistes par rapport à la virginité, évidemment, de leurs filles, parce que le débat va d'abord porter sur la virginité des filles, vous le disiez, la virginité des garçons doit se perdre, doit se passer, la virginité des filles
doit se préserver,
y compris dans les sociétés très tolérantes.
Oui, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement le poids des parents est présent, le poids de la famille, de la société est présent, mais surtout, je pense, par rapport à une question du sens. Les mamans sont effrayées quand leur fille vient leur demander une contraception à 15 ans ou 16 ans. C'est pas tant par rapport, je pense, à l'acte sexuel en lui-même, mais par rapport à ce que la jeune va vivre, en fait. Et par rapport au sens qu'elle va mettre dans le fait d'avoir des relations sexuelles à 15 ou 16 ans avec un garçon.
Éventuellement pas si choisi que cela. C'est ça aussi la peur des mamans.
En fait, oui. Éventuellement pas si choisi que ça. Et d'ailleurs, pas si choisi que ça. C'est vrai que les jeunes, quand je reçois des jeunes en centre de planification et qu'elles viennent me parler, elles me disent, mais madame, je viens vous voir parce que je l'ai fait. Et quand je leur demande, mais vous avez fait quoi? En fait, elles arrivent pas à dire. Elles me disent, vous savez bien, madame, je l'ai fait. Je lui dis, non, je ne sais pas ce que vous avez fait. Et alors, ça va du, j'ai fait ma première fois, j'ai eu des relations sexuelles, j'ai eu une partie de corps à corps avec un garçon, je me suis fait dévierger. Vous voyez, quelque chose de subi. J'ai donné ma virginité ou j'ai perdu ma virginité. Et vous voyez, on voit bien que...
Donc, elles ont du mal elles-mêmes à mettre des mots sur ce qui s'est passé, finalement.
Et puis surtout sur comment elles l'ont vécu.
C'est ça. Et donc sur leur choix précédemment énoncé, finalement. Est-ce que réellement, elles savaient ce qu'elles faisaient?
Et en fait, parfois, je me rends compte que je suis presque la première personne à leur faire verbaliser ce que la virginité ou la première fois signifiait pour elles.
En même temps, si je peux ajouter, malgré tout, c'est extrêmement difficile de raconter un événement qu'on vient de vivre sans aucun recul. Et que la société a quand même beaucoup d'intérêt à porter sur la sexualité des jeunes. On demande beaucoup moins aux adultes de s'exprimer sur leur sexualité. Et qu'on se sent en tant qu'adulte toujours responsable de la sexualité des jeunes et encore plus de celle des jeunes femmes. Parce qu'il y a un enjeu de reproduction, il y a un enjeu politique, il y a un enjeu derrière tout ça. Mais malgré tout, c'est extrêmement difficile de raconter un événement qu'on vient de vivre.
Et tellement intime.
Et en fait, souvent, il est reconstruit et réinterprété à la lumière des événements suivants. Et c'était bien ou c'était pas bien, c'est souvent quand on a eu éventuellement d'autres rapports sexuels avec ou pas le même partenaire qu'on va pouvoir après arbitrer.
D'autant plus que c'est pas un sujet largement débattu dans les médias. La virginité, on a eu effectivement du mal à savoir comment construire l'émission. Vous restez avec nous, justement, vous disiez qu'il y a eu une part de sujet politique. Nous sommes en ligne avec Delphine Minoui. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Delphine Minoui, vous êtes correspondante pour le journal Le Figaro au Moyen-Orient. Vous êtes basée à Istanbul. Vous avez aussi vécu au Caire, à Beyrouth, à Téhéran. Vous avez publié d'ailleurs tout récemment, je vous écris, de Téhéran, aux éditions du Seuil. Vous êtes prix Albert Londres. Vous vous intéressez beaucoup à la question des femmes dans ces pays-là. Est-ce que la virginité est encore un sujet tabou dans le monde, ce que l'on appelle grosso modo le monde arabo-musulman?
Oui, il faut reconnaître que ça reste quand même un tabou social qui mène d'ailleurs à des restrictions au quotidien. Par exemple, dans les milieux traditionnels, il faut rappeler qu'il est encore, dans certains milieux, interdit aux filles de faire de l'équitation, du vélo ou même de la gym, tout simplement parce qu'il faut, entre guillemets, qu'elles préservent leur pureté. Dans des milieux également libéraux, tout simplement, arriver intacte avant le mariage, ça reste un impératif social. En même temps, ce que moi j'ai pu constater au cours de ces dernières années, c'est qu'il y a quand même des changements qui sont flagrants, qui sont visibles. Par exemple, tout simplement les rituels qui accompagnent la nuit nuptiale, eh bien ces rituels, ils sont en voie de perdition. Vous savez, la tradition veut que, par exemple, on exhibe le drap qui est taché de sang à la sortie de la chambre nuptiale. Ça, c'est comme preuve de bonne conduite. Tout ça, c'est en train de disparaître. Et puis, tout simplement, il y a aussi des nouvelles réalités sociales. Les femmes étudient de plus en plus tardivement. Elles se marient, du coup, de plus en plus tard. Et ça mène à pas mal de changements.
Mais alors, vous le savez, Delphine Minou, il y a des organisations humanitaires qui régulièrement dénoncent les tests de virginité forcés. Vous vous souvenez du cas de l'Indonésie pour les femmes qui veulent entrer dans la police, mais aussi en Égypte au moment des manifestations. Aujourd'hui, qu'en est-il de ces tests de virginité forcés sous le régime d'Al-Sissi ?
Oui, alors ça c'est quelque chose de nouveau qui est apparu après la révolution en Égypte à partir de 2011 où l'armée a commencé à utiliser les tests de virginité, je dirais comme forme de pression politique. Souvenez-vous ce qui s'était passé sur la place Tahrir où une dizaine de filles avaient été arrêtées et là elles avaient subi l'humiliation suprême qui avait été de subir ces tests. Alors l'armée, elle avait justifié cette pratique en disant que c'était une façon de montrer que les soldats n'avaient pas violé les manifestantes, mais la réalité, elle est plus profonde, c'est-à-dire que c'est vraiment une volonté de faire taire ces manifestants, de faire taire ces activistes. Je me souviens notamment d'une jeune femme avec qui j'ai parlé récemment. C'est une pratique qui continue à se poursuivre dans les centres de détention. Elle avait subi ce test de virginité, c'est une espèce de fouille. Fouille virginale et elle me disait qu'elle était au bord de la dépression parce que d'une part elle était livrée au silence politique mais également au silence social parce qu'elle n'osait même pas en parler à sa famille. Pour elle, si elle en parlait à sa mère, elle était complètement exclue, complètement marginalisée.
Ce qui veut dire que d'une certaine manière le test de... ce qui veut dire que finalement le test de virginité imposé de cette façon-là est presque comme assimilé, vécu personnellement par les filles et assimilé socialement pratiquement à un viol, alors que ça n'est pas le cas. Sur le plan juridique.
Exactement, quasiment. C'est-à-dire que c'est complètement... C'est jouer avec les mots, malheureusement. Et c'est là où le pouvoir joue un jeu complètement pervers. Parce que avec cette idée du test de virginité, ils essayent de se prémunir de toute critique. Mais dans la réalité, c'est quand même un viol. Pour une femme issue d'un milieu traditionnel, être obligée de se mettre à nu et de se sentir fouillée, c'est terriblement humiliant. C'est horrible.
Aujourd'hui, pour des filles de la classe moyenne, éduquées, en milieu urbain, au Moyen-Orient, alors on va dire d'Istanbul à Téhéran, grosso modo, la préoccupation, quelle est-elle finalement ? C'est le contournement de l'interdit, c'est le respect en façade et puis plus de liberté derrière ?
Oui, il faut le reconnaître. Les jeunes, comme je le disais, se marient de plus en plus tard. Et donc, ils en ont marre de ces tabous imposés par le pouvoir parfois, ou parfois c'est aussi par la société ou par la famille. Alors du coup, ils sont devenus experts en contournement des interdits. Par exemple, c'est marrant parce qu'entre elles, les filles parlent beaucoup. Donc quand je discute avec des Libanaises, des Iraniennes, des Irakiennes, elles me racontent ouvertement un peu leur intimité. Et en effet, elles contournent l'interdit en pratiquant, par exemple, sans encombre d'autres pratiques comme la sodomie ou encore la fellation. Pour elle, finalement, tout est envisageable pourvu que le sacro-saint hymen reste préservé. Et puis, pour celles qui passent à l'acte, parce qu'il y en a, il y en a encore beaucoup qui passent quand même à l'acte en catimini, eh bien, il y a toujours l'option de la chirurgie de l'hymen. Et à ce titre, j'ai envie de citer ce film que beaucoup de gens ont vu, ce film libanais, Caramel, de la réalisatrice Nadine Labaki. Et dans sa galerie de portraits très, très frappant au féminin, eh bien, je me souviens...
On vous retrouve dans 3 minutes, Delphine. Restez avec nous.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, qu'est-ce que la virginité dans le monde? C'est un sujet insondable où on a l'impression de se perdre dans un puits sans fond, tellement les semblants, les faux semblants sont nombreux du nord au sud. Alors que raconte la virginité finalement sur les relations hommes-femmes et sur l'état des sociétés? Nous en discutons avec nos invités en studio, Yael Amsalem-Mingui qui est sociologue à l'INJEP, l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, Stéphanie de Malglève qui est conseillère conjugale et familiale qui intervient dans les collèges, lycées. Vous nous disiez d'ailleurs toutes les deux en première partie d'émission que les filles elles-mêmes ont du mal à mettre des mots sur cette première fois, sur ce que signifie réellement la virginité, avec des familles qui cherchent à préserver, bien que la société n'ait pas d'interdit, mais les familles cherchent à préserver la virginité des filles, et en revanche que les garçons perdent à tout prix leur virginité qui doit passer pour devenir un homme. C'est ce que vous nous disiez, Yael Amsalem. Et puis, nous étions en ligne avec Delphine Minoui, correspondante pour Le Figaro au Moyen-Orient. Delphine Minoui, nous sommes de nouveau avec vous. Nous avons été interrompus par le flash. Toutes nos excuses. Vous nous disiez qu'à l'heure actuelle, dans les sociétés moyen-orientales, notamment urbanisées, avec des filles, des familles avec des enfants moins nombreux, les filles cherchent à contourner les interdits. Et on a ce fameux business de la virginité et de la reconstruction de l'hymen. C'est bien cela, hein, Delphine Minoui.
Oui, c'est vrai qu'on constate qu'au Moyen-Orient, les filles sont de plus en plus expérimentées et elles contournent sans souci aujourd'hui le tabou lié à l'hymen tout en garantissant leur plaisir sexuel. Alors c'est vrai que, par exemple, la chirurgie de l'hymen, c'est devenu un véritable business clandestin pour certains médecins. C'est très pratiqué par de nombreuses filles, notamment de la haute société. Et je citais tout à l'heure en exemple ce film Caramel de la réalisatrice libanaise Nadine Labaki, dans lequel une des femmes, justement, qui est une future jeune mariée de bonne famille, s'apprête à se marier et tout d'un coup elle panique parce qu'elle n'est pas vierge, elle a déjà consommé avant le mariage. Alors toutes ses copines se mobilisent, l'emmènent à l'hôpital pour qu'elle puisse se faire recoudre l'hymen et du coup sauver, je dirais, les apparences.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Delphine Minoui. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Je vous écris de Téhéran. Vous avez été d'ailleurs correspondante en Iran pendant de nombreuses années, publié aux éditions du Seuil. Merci pour votre éclairage. Vous êtes en ce moment basée à Istanbul, en Turquie. Je voudrais aussi vous lire quelques messages qui nous parviennent sur les réseaux sociaux. On voit bien que les voisines et les voisins parfois ne savent plus très bien comment se situer par rapport à ce sujet, parce que l'IA, avec la mondialisation, des confusions. Inès à Cotonou, par exemple, au Bénin, nous dit, il y a un concours grotesque au Bénin qui s'appelle Trophée Miss Vierge. Personnellement, je ne comprends plus comment le monde fonctionne. À la fois, on vote pour légaliser l'avortement, on organise des concours de Miss où les filles exhibent leur corps, et en même temps, on nous vend la virginité comme indicateur de moralité. Est-ce que vous retrouvez ici en France, toutes les deux, Yael Amsalem-Mingui et Stéphanie de Malglève, ces interrogations finalement pour retrouver des repères? Stéphanie de Malglève.
Alors oui, moi je le retrouve beaucoup dans des collèges et lycées, effectivement, où il y a beaucoup de personnes de musulmanes, vraiment, où cet hymen, ne pas perdre l'hymen et faire recoudre l'hymen, ça c'est sûr qu'on en parle aujourd'hui beaucoup. La pratique de la sodomie aussi, effectivement, on en parle beaucoup. Et comme si la virginité en fait se limitait à l'hymen, en fait, vous voyez. Et c'est vrai que tout mon travail, moi, c'est de les faire réfléchir sur ce que représente pour elles-mêmes la virginité. Qu'est-ce que je fais de cette pression, finalement, presque parfois familiale, on va dire. Est-ce que j'adhère? Est-ce que j'adhère pas? Est-ce que ça me fait oui? Est-ce que ça me fait non? Et moi, finalement, en tant que jeune, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie relationnelle, affective et sexuelle? Est-ce que j'arrive à faire sens? Voilà, moi qui pratique la sodomie, finalement, est-ce que ça veut vraiment dire que je suis toujours vierge? Qu'est-ce que c'est que la virginité? Et à partir de là, on arrive un peu à faire que ces jeunes femmes, finalement, vont réussir à connecter entre eux. Voilà, ce que la loi, enfin la loi de la famille peut dire, ce que le corps de la jeune fille peut dire, ce que la pression des garçons, des filles autour, je l'ai fait, je l'ai pas fait, peut dire. Et puis finalement, au moins au plus profond de moi-même, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, quoi. Et comment je vais réussir à me dépatouiller dans tout ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est, tout le monde en parle.
Alors justement, vous évoquiez le cas de dans certains collèges et lycées d'élèves français de confession musulmane de par leur famille, par exemple. Est-ce que d'un milieu social à l'autre, d'une région à l'autre, d'un quartier à l'autre, par exemple dans des quartiers qu'on dit sensibles où les relations sont parfois plus violentes entre les filles et les garçons, il y a Alem Salem Mingui, du coup c'est un sujet qui est plus compliqué largement, alors qu'il l'est déjà pour tout le monde.
Ouais, moi je dirais que c'est d'abord un sujet très compliqué et qu'on a quand même tendance en France, en tout cas parce que c'est la situation qu'on étudie, enfin que moi j'étudie, à penser que les autres sont forcément différents et notamment que les jeunes de confession musulmane seraient forcément différents des autres, que les jeunes issus des quartiers seraient forcément différents de ceux qui vivent en milieu rural ou en milieu urbain. Or, il faut bien repenser tout ça dans une dynamique sociale et les enjeux autour de la virginité des filles, notamment pour les jeunes dont vous parliez tout à l'heure, il y a aussi tout l'enjeu familial de reconnaissance de la famille, de respect de la famille, de respect des frères et sœurs, qui va avec la stigmatisation des familles en France. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même tendance à reléguer socialement toute une partie de la population. Et ça, les travaux de Christelle Hamel le montrent très bien, hein, à reléguer toute une partie de la population, à les mettre à l'écart. Et donc, les filles, quelque part, en adhérant aux valeurs de leur famille, viennent défendre à la fois leur position, mais également défendre leurs frères, qui ne sont pas tous des hommes violents et plus violents que les autres en population majoritaire, c'est-à-dire française, née en France, de deux parents français. Parce que les violences, on aime bien, nous, en France, penser que les violences à l'égard des
viennent
femmes...
Elles viennent de la différence.
Elles viennent c'est de la différence et elles viennent des autres. Or, l'enquête menée par Marie-Gilles Aspar montre bien qu'elle touche tous les milieux sociaux et l'ensemble de la société française, quelle que soit la confession, quelle que soit l'origine sociale, quel que soit le territoire, qu'il soit ultramarin ou de métropole, enfin voilà.
Alors justement, nous parlons de la virginité aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde, et vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. N'hésitez pas à nous parler de votre situation, de vos convictions, de vos histoires personnelles. Nous prenons en ligne une auditrice, Julie, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Julie, vous êtes originaire de République démocratique du Congo, je crois que vous venez de Goma, mais vous vivez à Nairobi au Kenya, donc en Afrique de l'Est.
Oui, et pour moi la virginité c'est quelque chose qui doit se garder jusqu'au mariage. Pas pour la famille ou pour les autres, mais je trouve que c'est un honneur quand... votre mari vous trouve vierge et qu'il est le seul à coucher avec vous. Mais c'est bizarre aussi quand vous en parlez aux gens. Moi, quand j'en parle aux gens, on me dit que je suis archaïque, j'ai des idées archaïques et je ne suis pas civilisée, que je suis immature. Pour certaines personnes, pour être mature, il faut perdre sa virginité. Et d'autres personnes vous disent aussi que vous ne savez pas vivre votre vie, on ne vit qu'une fois, alors il faut... Donc, faut pas attendre. Ici en Afrique, pas en Afrique vraiment. Disons en RDC, les filles entre 22, 25 ans, elles se marient déjà. Alors je ne vois pas le problème. Pourquoi ne pas attendre le mariage? 25 ans, ce n'est pas vraiment tard.
En tout cas, votre témoignage montre bien qu'entre la virginité telle qu'elle est perçue à Goma et telle qu'elle est perçue dans une grande capitale africaine comme Nairobi, déjà, c'est pas la même chose. Hein, donc, il faut pas effectivement parler de l'Afrique en tant que telle, et vous avez bien raison. Mais du coup, vous, dans votre histoire personnelle, comment vous voyez la virginité? Comment vous voyez l'avenir pour vous?
Pardon? Vous
Oui, Julie, vous, comment vous envisagez la fin de la virginité? C'est-à-dire que vous perdrez votre virginité dans le mariage lorsque vous aurez trouvé le bon candidat, l'époux idéal, c'est bien cela pour vous, Julie?
Exactement. Il faudra attendre le mariage. Pour moi, personnellement, j'attends le mariage. Donc, je ne suis pas en train de faire une course avec les autres. J'attends le mariage pour moi, parce que pour moi, la virginité représente la dignité de la femme.
Très
Très bien, mais merci, c'est un beau message en tout cas. Vous souhaitez réagir dans le studio?
Oui. En fait, je trouve très très touchant ce que vient de dire cette auditrice, et ça me rappelle une jeune fille qui disait, et d'ailleurs on l'a entendu dans le premier témoignage, comme si le fait de donner sa, ou de perdre sa virginité, comme on l'entend, était un passage pour grandir. C'est ce que disait la jeune fille du départ. Oui. Ça me rappelle une jeune fille que j'ai reçue qui m'a dit, mais vous voyez, moi j'ai voulu faire ma première fois pour grandir. Et en fait, aujourd'hui, quand elle est venue me voir, elle l'avait fait sans moyen de protection ni rien, et donc elle a eu peur d'être enceinte. Et en la faisant réfléchir, enfin en tirant le fil de cette peur d'être enceinte, elle me dit, mais au fond, aujourd'hui je l'ai fait, je suis dans la panade parce que j'ai peur d'être enceinte, rien n'a changé à part les ennuis que je peux avoir aujourd'hui parce que j'ai pas réfléchi et j'ai pas anticipé ça. Vous voyez, donc elle me disait, mais finalement je suis peut-être trop jeune pour avoir fait l'amour aujourd'hui, parce que j'avais pas pensé au risque de grossesse et aujourd'hui je suis pas capable d'accueillir un enfant.
Mmh. Vous voyez, donc la virginité à réfléchir au-delà d'un simple rite d'étape, hein, finalement.
Exactement.
Hein, comme s'il y avait la perte de la virginité puis le baccalauréat dans un sens ou dans l'un autre. Parfois ça peut être tout simplement mis sur le même plan.
Il y a plus vraiment de rite d'étape vraiment, puisqu'on passe d'un état à un autre et puis on change et puis c'est des processus. Mais malgré tout, il y a quand même un avant et un après dans les discours des jeunes qu'on peut rencontrer, même si ce premier rapport, il peut être finalement décalé à un autre premier rapport qui était plus heureux un peu plus tard, ou ouais. Il peut être reconstruit autrement.
En tout cas, merci beaucoup à Julie de nous avoir appelé. Bien évidemment, vous continuez à nous appeler, les voisins et les voisines. Qu'est-ce que la virginité aujourd'hui dans le monde, dans votre famille, dans votre société, qu'est-ce que ça représente pour vous, pour votre conviction profonde? 33 1 84 22 71 71. J'aimerais bien qu'on donne la parole à une historienne pour y voir plus clair, avec un autre éclairage. Bonjour Yvonne Knibeller.
Bonjour.
Vous êtes historienne et auteure d'un des rares ouvrages sur la virginité féminine. Votre livre s'appelle La virginité féminine, mythe, fantasme, émancipation, chez Odile Lafon. Pouvez-vous nous dire comment a évolué la conception de la virginité au fil de l'histoire?
Eh bien, à l'origine, c'est une condition du patriarcat traditionnel. Mmh. La première fonction de la virginité, c'est de garantir l'authenticité de la filiation. L'homme veut des enfants de son sang pour leur léguer son nom et ses biens et pour perpétuer sa lignée, ce qui est une manière de survivre, de conjurer la mort. La mère est identifiée par la grossesse et l'accouchement, mais le père n'a aucun repère biologique et donc il veut se rassurer. La deuxième fonction qui a été inventée par le christianisme, c'est de libérer la fille. Oui, je dis bien libérer, car à l'époque païenne, les filles étaient données en mariage, entre guillemets, par leur père, souvent sans être consultées. Mmh. Et l'Église soutient la liberté de choix de celles qui demandent à fuir le joug d'un mari et les risques de l'enfantement pour rechercher de préférence l'élévation morale, l'étude et la prière. L'Église a élevé la virginité au rang de haute vertu morale, de voie d'accès à la sainteté, parce que la virginité distingue l'humain de l'animal. Elle rapproche l'être humain de Dieu, qui est un pur esprit. Voilà les raisons de la valorisation de la virginité. Aux âges chrétiens, de grandes saintes ont glorifié la virginité au plan social et même au plan du pouvoir politique. Par exemple, Geneviève, qui a défendu Paris contre Attila, Jeanne d'Arc,
oui, bien sûr.
Thérèse d'Avila, la reine Élisabeth Ière d'Angleterre, et je pourrais en citer beaucoup d'autres.
Alors, faisons un grand bond dans l'histoire, Yvonne Knibeller. À partir de quel moment les femmes ont pu réellement choisir d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, avant de bâtir une famille, disons?
Oh, je crois qu'il faut attendre la contraception féminine pour que la fille soit sûre d'éviter la grossesse. Si elle se livre aux entreprises d'un homme, il ne sera pas forcément, malgré tout ce qu'il peut promettre, il ne sera pas forcément assez prudent. La fille dispose de son corps quand elle dispose de la contraception.
Mais alors finalement, est-ce que c'est la contraception, les progrès scientifiques qui font perdre une valeur symbolique de la virginité aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a encore une vraie valeur symbolique de la virginité dans nos sociétés?
Eh bien, ça dépend des gens. Pour beaucoup d'hommes, et en particulier pour les scientifiques, la symbolisation, elle a diminué, puisque il ne voit tout qu'à travers les découvertes scientifiques. Mmh. Mais comme l'ont répété beaucoup de vos voisins mmh. voisines, ça reste symbolique pour beaucoup de gens. Mmh. Hein. Et c'est une valeur morale, une valeur sociale qui reste très respectée.
Oui, comme si c'était une espèce de loi naturelle où finalement la première fois est quelque chose de, enfin de, c'est quelque chose, c'est pas rien cette première fois. Non. Comme si on avait envie de le oui. vivre avec une seule
personne.
Tous
les individus sur Terre se souviennent de leur première fois, hein, pratiquement, voilà. En principe.
Oui, oui.
Oui, mais cette loi.
Mais c'est-à-dire que pour les filles, la défloration. Et quelque part un équivalent de la circoncision en pays musulman, vous voyez, pour être digne d'engendrer, pour être digne de devenir mère, engendrer c'est une œuvre divine, hein. Il faut que le sang coule et que le corps soit marqué. Et je crois que ça demeure tout à fait inconscient. Mais ça reste vrai quelque part.
Merci infiniment pour cet éclairage, Yvonne Knierbiller. Vous êtes historienne et vous avez publié La virginité féminine, mythe, fantasme, émancipation chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Je vous livre encore quelques témoignages sur les réseaux sociaux. Par exemple, William à Yaoundé, hein, comme quoi il faut surtout pas opposer l'Orient, l'Occident, les cultures traditionnelles, les sociétés dites modernes. Tout ça, évidemment, est beaucoup trop schématique pour un sujet comme la virginité. Chez moi au Cameroun, nous dit William, être vierge est devenu comme une malédiction ou alors une preuve qu'on n'est pas féminine et pas attirée par les garçons. Dans certaines tribus Boulou, une femme qui se marie ayant fait un enfant avant bénéficie d'une dot coûteuse, comme quoi elle aurait fait ses preuves de femme fertile. Ou encore le témoignage de Lassana, 29 ans, à Bamako. Aujourd'hui, la virginité est rare à cause de la pauvreté. Les jeunes filles vendent leur virginité pour aider leur famille en besoin. Ou encore Antoine, alors lui qui est en Guinée, il nous dit il faut être vierge avant le mariage, nos parents y veillent comme des gardiens d'Éden alors que nos sœurs savent que c'est quelque chose dont elles doivent prendre soin au risque de perdre la faveur des parents. Les rebelles sont souvent chassés à coups de larmes, la mère pleure son déshonneur et de moquerie. Voilà. Ainsi, la virginité est perçue comme une richesse. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Nous donnons la parole à Félix qui nous appelle de Bamako, Mali. Bonjour Félix.
Bonjour Manuel.
Alors, vous souhaitez réagir par rapport à tout ce que vous avez entendu, notamment les témoignages des auditrices et auditeurs.
Oui, en fait, je veux pousser mon coup de gueule par rapport à ce sujet. Parce que, en tant qu'Africain, j'ai toujours considéré que le fait d'exiger des filles qu'elles préservent à tous les prix leur virginité avant le mariage était de l'égoïsme pur et simple de la part des hommes. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi, je refuse de comprendre qu'on exige une fille qu'elle soit vierge avant le mariage et pas d'un homme. Et j'ai souvent relevé le fait que les filles sont divisées par les hommes. Donc, elles perdent leur virginité du fait des hommes.
Donc, pour vous, finalement, la valorisation de la virginité, c'est encore une manière de soumission, finalement, de mainmise des hommes sur la caste féminine. C'est comme ça que vous percevez.
Bien sûr. C'est de l'égoïsme, parce que de ce que j'ai entendu autour de ce sujet, c'est des hommes qui souhaitent avoir une femme pure, une femme qui n'a été touchée par personne avant eux. Mais eux, de leur côté, ils ont eu à toucher plusieurs femmes avant. Oui, bien sûr. Et dans le pays que je vis, où je vis, qui est le Mali, il existe de là que des mariages soient annulés, que des femmes soient réfugiées au lendemain de le mariage juste parce qu'elles ont été des vierges avant le mariage. Et moi, je trouve que c'est très égoïste. Et franchement, c'est des pratiques que moi, je veux voir abolir et carrément exterminer.
Ouais. Il y a parfois d'autres raisons hein, à ce type de tractation, de répudiation. Hein. En général, c'est parfois un prétexte, non?
Oui, mais Emmanuel, peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais franchement, le fait qu'une femme, en Afrique de l'Ouest en l'occurrence, le fait qu'une femme soit divergée avant le mariage, passe encore très mal. Et l'un de vos auditeurs a parlé du fait que voilà, la famille se sentait trahie, la famille ressentait le déshonneur et le prouvait sur elle. Et voilà, et moi, à chaque fois, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que ça soulevait autant de remous, pourquoi est-ce que ça soulevait autant de problèmes, parce que je me dis, je ne veux pas encourager les filles
Non, non, on a bien compris. On a bien compris votre propos, bien sûr, Félix. Il n'est pas question de l'interpréter comme tel. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Je souhaiterais que nous donnions la parole à Marcel qui est à Kinshasa. Bonjour Marcel.
Bonjour Manuel.
Vous avez 27 ans, vous êtes un garçon.
Oui, oui.
Et vous souhaitiez nous parler de la virginité pour les garçons.
Oui, je souhaiterais parler de la virginité pour les garçons, parce que je vois qu'on met beaucoup plus l'accent pour la virginité chez les femmes. Mmh. Alors, moi particulièrement, j'ai grandi dans un environnement où la virginité est considérée comme une honte. Quand tu es jeune et que tu n'as jamais couché avec une femme avant, alors tu es considéré comme une honte, comme une échec. Les amis autour de toi se moquent de toi. Des fois, ils organisent des trucs genre, ils appellent une femme, vous laissez ensemble, de manière à ce que tu puisses le faire pour la première fois. Et si tu ne sais pas tenir le coup, c'est vraiment compliqué. Parce que, pour moi, je considère que la virginité, et perdre sa virginité, est l'un des moments le plus important de la vie d'une personne. Alors, tu ne dois pas le faire n'importe comment.
Y compris pour un homme, c'est ce que vous nous dites, Marcel ?
Oui, oui, y compris pour un homme. Y compris pour un homme.
Mais alors vous, Marcel, dans quelle situation êtes-vous aujourd'hui à 27 ans ?
Aujourd'hui à 27 ans, je ne suis plus vierge malheureusement, oui, parce que j'ai suivi de conseils des amis et puis voilà, je me suis retrouvé dans cette situation qui a un impact. En fait, ce qui se passe, c'est que chez les garçons, quand vous perdez votre virginité avant, après ça a un impact sur votre mariage. Après vous grandissez, vous vous mariez et puis... vous avez un partenaire à qui vous n'arrivez plus à rester fidèle à ce partenaire parce que vous avez été avec d'autres partenaires avant et ça vous est complètement difficile de rester avec une seule personne. Vous voulez aller voir à gauche et à droite et ça devient un peu compliqué. Pourtant, si vous l'avez fait une seule fois avec la personne que vous avez épousée, je crois que l'impact aurait été un peu différent. Mmh.
Ouais. Alors, restez en ligne avec vous parce que nos invités, je pense, peuvent vous répondre à vos préoccupations. Finalement, on sent bien que votre idéal sentimental d'histoire d'amour de première fois correspondant pile à l'histoire d'amour qui démarre, eh bien, cet idéal-là, vous n'avez pas pu le mettre en place comme vous l'auriez souhaité, sous la pression masculine de votre entourage, finalement, sous la pression de la virilité quelque part. Est-ce que c'est comme ça que je dois comprendre l'histoire et qu'en disent nos invités, notre invité conseillère conjugale, par exemple?
Vas-y, je te laisse la main.
Oui, il y a la
Non, nous, ce qu'on voit du côté des jeunes en France, par exemple, c'est que pour les filles comme pour les garçons, il y a le droit de revendiquer le fait de ne pas avoir eu sa première fois comme un choix jusqu'à un certain âge. Et après, passé 25 ans, pour les garçons surtout, mais pour les filles aussi, c'est vécu comme une contrainte. C'est-à-dire qu'il y a un moment auquel on a le droit d'avoir des opinions, d'avoir une volonté de pas encore avoir eu sa première fois. Et puis, il y a un âge à partir duquel il faut montrer...
Le bénéfice de l'extrême jeunesse, finalement, d'une certaine façon.
Ouais. Mais voilà, et puis il y a un moment auquel il faut montrer qu'on a... On rentre dans l'âge adulte, on est aussi quelqu'un avec une sexualité. Derrière ça, malgré tout, il y a à prendre en considération des sociétés dans lesquelles on vit, dans l'ensemble de la planète, qui sont très hétérosexistes, et qui, notamment pour les garçons qui n'ont pas de sexualité active officiellement, laissent planer le doute d'une homosexualité. Un garçon qui n'a pas de sexualité quand il est adolescent, quand il grandit, est suspecté très rapidement par sa famille, par ses copains, d'être homosexuel. Et ce qui est encore un gros problème dans l'ensemble des sociétés, quelles qu'elles soient, avec plus ou moins de tolérance malgré tout, mais malgré tout, une grande crainte collective. Le seul truc qui me semblait intéressant malgré tout de souligner, c'est que sur l'ensemble de la planète, il n'y a pas les mêmes enjeux autour de la virginité, notamment en Asie de l'Est, hein, que ça soit au Vietnam, à Singapour ou encore au Sri Lanka. Les deux sexes sont contraints traditionnellement d'attendre et de reporter leur rapport sexuel, d'attendre le mariage, mais là c'est les filles et les garçons. Et pour l'instant, dans ce que j'ai pu lire pour préparer l'émission, il n'y a que dans cette partie-là du monde où les garçons aussi. Sont comme les filles à attendre leur première fois.
Mais Stéphanie de Malgré, qu'est-ce qu'on peut répondre à Marcel qui finalement, d'une certaine manière, en ayant été obligé de renoncer à une forme d'idéalisation de la relation sexuelle, dans la relation sentimentale, de la première fois avec la femme de sa vie, etc. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à Marcel pour lui dire « Mais non, c'est pas fini, une belle histoire va commencer de toute façon ».
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que je pense que tout être humain, on peut être blessé par finalement... un acte qu'on a posé, une pression sociale, avec voilà, et vous le dites très bien par rapport à ce que vous avez vécu. Après tout, c'est vous, Marcel, finalement, qu'est-ce que... Oui, vous l'avez fait par pression, mais finalement, aujourd'hui, quel homme vous avez envie d'être? Quel mari vous avez envie d'être? Quel conjoint vous avez envie d'être?
On ne peut pas réécrire l'histoire, évidemment, quand on a perdu sa virginité, mais on peut continuer de l'écrire et on a envie de la faire.
Et je pense que d'une certaine manière, une virginité peut se retrouver. C'est sûr que la première fois, elle est passée, mais si au fond de vous-même, vous décidez de choisir qu'une seule femme et de n'aimer qu'elle, si vraiment c'est ce qui vous habite, à vous de le mettre en place.
33 1 84 22 71 71, on arrive presque au terme de cette émission. Vous êtes nombreux à souhaiter vous exprimer. Nous laissons la parole à Ivan qui est à Libreville au Gabon. Bonjour Ivan.
Bonjour.
Vous êtes un père de famille de 6 filles.
Oui. Tout à fait, 6 filles de 22 ans à 4 ans.
Oui, d'accord.
Et de 3 garçons, 3 petits garçons.
Ah, d'accord. Il nous reste quelques secondes, Ivan. Dites-nous vite, ce qui vous préoccupe.
En tant que papa, pour m'insurger contre certaines pratiques chez les papas gabonais qui ont du mal à accepter les mutations morphologiques de leur fille entre la puberté et l'adolescence, et qui se voient obligés, mettant des pressions psychologiques, de leur faire des examens gynécologiques pour vérifier si elles sont encore vierges. Et finalement, par révolte, ces gamines décident d'avoir un rapport sexuel non désiré avec un garçon de leur âge ou plus âgé, tout simplement par révolte. Ça, c'est assez fréquent chez nous.
Et vous-même, Ivan, alors, qu'est-ce que vous avez décidé pour vos filles comme ligne de conduite?
Je suis d'un milieu protestant, donc j'ai des convictions religieuses que j'ai donc transmises à mes filles. Mais ma fille aînée, en ce moment, vit à Paris avec son amie, n'est pas mariée.
Voilà. Différence évidemment entre les convictions et la vie réelle. Mais en tout cas, merci de nous avoir fait partager votre opinion sur le sujet. Merci à tous nos invités, merci à toute l'équipe. Cette émission est trop courte, hein. Il faudrait qu'elle dure plusieurs heures pour arriver à dire tout ce qu'on a envie de dire sur la virginité. Demain, en tout cas, 7 milliards de voisins, on parlera de l'école en Grèce. Les jeunes sont-ils la génération sacrifiée de la crise grecque ?